J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de notre Dieu dans 1 Samuel chapitre 17. La dernière fois que j'ai pu partager la parole, nous avons vu le chapitre 16 où le Seigneur a appelé David à la royauté. Et nous avons vu dans ce passage que Dieu avait le regard sur David. Dieu l'avait vu, mais pas seulement Dieu, mais aussi les hommes qui étaient là, les serviteurs de Saül l'avaient remarqué. Et lorsqu'il avait besoin d'un homme pour accéder à la royauté, mais ils avaient aussi besoin d'un homme pour calmer Saül, alors David avait été remarqué. Aujourd'hui, nous allons voir le passage que je pense que tout le monde connaît. C'est l'histoire de David et de Goliath. Donc, il y a quelques enfants parmi nous et nous savons que les enfants connaissent bien ces histoires-là et on veut remercier notamment les monitrices de la classe de la Bible qui parcourt avec les enfants ces histoires. Et oui, c'est un texte que nous connaissons, et j'espère et je prie le Seigneur que sa parole encore nous fasse du bien à travers ce que nous allons pouvoir découvrir dans ce passage. En tout cas, ce que le Seigneur a bien voulu me montrer pour que je puisse le partager avec vous. Le thème du message, c'est la victoire face à l'adversité. Et nous allons, c'est un texte qui est assez long, donc nous allons le lire en plusieurs temps. Et à travers ce passage, c'est comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à une situation inattendue? Comment réagissons-nous lorsque quelque chose arrive qui n'était pas prévu et c'est comme si c'est le ciel qui nous tombe sur la tête? Est-ce que nous allons affronter cette difficulté avec l'aide et la force du Seigneur, ou est-ce que nous allons nous replier sur nous-mêmes et nous laisser écraser par cette situation? Et à travers l'histoire de David et de Goliath, j'aimerais souligner cet aspect, puisque dans les 11 premiers versets, nous allons voir que ce peuple d'Israël, avec à sa tête Saül, était donc confronté à un événement qui les avait complètement surpris, c'est ce Goliath. Et à cause de cette surprise, ils étaient dans la crainte, ils avaient peur d'affronter cette situation nouvelle. Alors j'aimerais que nous lisions déjà les 11 premiers versets. Et le texte nous dit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Jusque-là, pour l'instant. Alors, le peuple d'Israël, donc sous la direction de Saül, se retrouve confronté à une difficulté de taille. Leurs adversaires, les Philistins, ont dans leur rang un homme donc nommé Goliath, qui est, on peut le dire, hors norme. C'est un géant, il fait environ 3,50 m, 3,60 m de haut, il pèse près, voire plus de 300 kg. Et donc, l'auteur décrit ce champion avec tout son équipement, donc c'est hyper impressionnant. Donc le peuple d'Israël, donc qui, le texte nous dit, le peuple est allé en ordre de bataille, donc prêt pour se battre, reste là complètement stoïque, paralysé par la peur, parce que le peuple ne s'attendait pas à avoir devant lui un géant. Le peuple pensait trouver une armée, comme ça s'était déjà produit dans le passé, trouver une armée puis aller combattre. Mais c'était ça la surprise. Il y avait ce géant qui était là, ce Goliath, et là le peuple est complètement ébahi et complètement empêtré dans la peur, effrayé à cause de ce qu'il voit. Alors, l'autre chose, c'est que ce géant leur propose un marché. Il leur dit, voilà, au lieu que les deux peuples viennent et combattent l'un contre l'autre, envoyez-moi juste un homme et qu'il combatte contre moi, et puis celui qui sera vainqueur, ben le peuple du vaincu sera esclave du peuple vainqueur. Donc là aussi, ça désoriente complètement le peuple d'Israël face à ce géant et face à ces nouvelles données. À la vue de ce géant, Saül donc et son armée, le texte nous dit qu'ils étaient paralysés par la peur. Ils n'ont pas voulu non plus s'engager dans cette bataille, malgré le fait que dans le passé, dans 1 Samuel chapitre 14, il est dit que Saül, il avait eu plusieurs victoires. Le texte nous dit au verset 47, après qu'il eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur, Saül. Il manifesta sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Et il est dit que pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Donc, Saül et le peuple avaient l'habitude de combattre les Philistins, de combattre d'autres peuples et d'être vainqueurs. Et là, pourquoi cette fois-ci, ils ne sont pas prêts à aller à la bataille? Pourquoi ils sont complètement effrayés par ces Philistins? Tout simplement parce que il y a ce Goliath qui les terrifie. Donc, Saül et ses hommes, ils ont eu peur de ce géant. Pourtant, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils étaient prêts au départ pour aller combattre. Ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés par Goliath, comme on l'a dit. Sa taille, sa carrure, ses armes. Ils ont été aussi déstabilisés par cette proposition que fait Goliath. Que ce soit juste seulement deux hommes qui aillent s'affronter. Donc c'était une nouvelle façon de procéder qui voilà qui ils étaient complètement déstabilisés à cause de ça. Et puis l'autre chose que je pense c'est qu'ils ne voulaient pas assumer la responsabilité d'une éventuelle défaite. Parce que celui qui accepte de défier le géant, et s'il perd, et bien il porte sur lui la responsabilité de faire de son peuple esclave des Philistins. Donc là, c'est la peur aussi d'assumer cette responsabilité. Saül lui-même, ce grand Saül, n'a pas voulu aller combattre ce Philistin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va même proposer à celui qui accepterait d'y aller, il va leur proposer une grande richesse, il va leur proposer même sa propre fille en mariage et l'affranchissement de toute sa famille. Donc, il met vraiment le paquet pour inciter un homme qu'il aille combattre ce Philistin. Mais malgré ça, malgré tout ce qu'il met sur la table pour inciter les gens à y aller, personne ne veut aller combattre ce géant. Ils ont refusé d'affronter Goliath parce qu'à leurs propres yeux, ils se voyaient petits. Ils avaient appris à s'appuyer sur leur propre force au lieu de s'appuyer sur la force que Dieu donne. Ils avaient oublié que, comme le dira David par la suite, que la victoire appartenait à l'Éternel. Ils avaient oublié que rien n'était impossible à Dieu, qu'ils avaient pour Dieu l'Éternel, comme on l'a vu ce matin, le Dieu Tout-Puissant. Ils avaient oublié tout cela parce que lorsqu'ils allaient combattre avant, ils savaient qu'ils avaient une grande armée. Saül prenait les hommes les plus vaillants, donc il avait avec lui des hommes forts. Donc, il comptait sur ses propres forces. Et donc, ils avaient des victoires. Mais là, face à cette situation nouvelle, ils sont complètement démunis. Et là, ils sont perdus. Alors, est-ce qu'il y a en Israël un homme qui accepterait d'aller combattre ce géant? Alors, nous savons la réponse. Et c'est justement l'auteur nous met ça comme ça, là, au verset 12, et on va le lire à partir du verset 32. Alors, il est dit au verset 12, « Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe donc dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Et aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Et lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Voilà. Donc, là, l'auteur nous dit, voilà, il n'y a personne qui voulait y aller, mais il y a cet homme, ce David, qui est là. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Quelle assurance, n'est-ce pas ? Ou est-ce de l'orgueil ? Est-ce une trop grande confiance en sa propre personne ? Est-ce une trop grande confiance en ses propres capacités ? En tout cas, son frère aîné, Eliab, fut enflammé de colère contre lui et en l'entendant parler avec une telle assurance. Il lui dit même qu'il connaissait son orgueil et la malice de son cœur. Donc, est-ce que c'est ça? Je pense que le jugement de son frère, alors est-ce qu'il est fondé? Je ne sais pas. Mais est-ce que le zèle de ce jeune homme pour son Dieu qui l'a poussé à réagir comme il l'a fait? Ce jeune garçon a voulu s'engager dans l'armée du roi des rois pour combattre celui qui a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Donc moi, je crois que c'est plutôt le zèle qu'il a pour Dieu, qu'il a poussé à agir et à dire, voilà, qu'il est prêt à aller battre ce géant. Alors, pourquoi David a-t-il voulu affronter ce géant alors que les autres n'ont pas voulu le faire? Alors, j'ai noté plusieurs choses dans ce passage. La première des choses, c'est que David a entendu les paroles prononcées par Goliath, tout comme les autres, avaient entendu les paroles. Il a vu ses compatriotes complètement paralysés par la peur. Il a vu tout le monde baissant la tête devant leur ennemi. Il a entendu aussi qu'il y avait une récompense pour celui qui accepterait d'y aller. Peut-être que ça l'a motivé aussi, mais je pense que c'est pas l'élément essentiel. Je crois qu'il a surtout vu l'offense qui est faite à son peuple et à son Dieu. Il veut avant tout laver son peuple de la honte qui lui est infligée par ce Philistin et qui insultait l'armée du Dieu vivant, et c'est ce qu'il dit au verset 26. Donc c'est ça, je crois, qu'il a vraiment motivé, qu'il a poussé cette insulte faite à l'armée du Dieu vivant, cette insulte faite à l'Éternel. Et à cause de tout cela, David, le jeune David, décide de se lever pour aller combattre le géant Goliath. Et la suite du récit montre que c'est aussi parce qu'il avait une grande foi en son Dieu, et c'est cette grande foi qui l'a stimulé et obligé à se lever pour se mettre au service de son Dieu. Et donc c'est ce que nous allons lire là à partir du verset 33. Alors le verset 33, il est dit, alors Saül donc dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors j'aimerais souligner plusieurs caractéristiques de la foi de David, puisque c'est sa foi en Dieu qui l'a poussé à aller, à s'avancer vers ce géant. Déjà, il a foi en la fidélité de Dieu. David, il veut aller combattre Goliath parce qu'il a appris, avec son petit troupeau de brebis, à trouver en Dieu la force et tout ce dont il avait besoin pour combattre d'autres géants comme des lions ou des ours. Il avait déjà appris à combattre d'autres géants. Ces lions, ces ours-là qui étaient là, qui venaient attaquer ses brebis, il avait déjà appris à trouver en Dieu ce qu'il fallait pour aller et délivrer ses brebis. Et même s'il était considéré comme un enfant, bon, il devait avoir entre 17 et 20 ans, certains disent 20 ans, donc il était considéré comme un enfant, non seulement par son grand frère, mais aussi par Saül. Il démontre au roi qu'il a été confronté à des situations où il a su faire preuve de courage pour protéger ses brebis. Et ce courage, lui, venait de Dieu, car il dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Donc David, il avait foi en Dieu, il savait que son Dieu qui est fidèle, c'est encore notre attribut qu'on aurait pu voir aussi, ce Dieu qui est fidèle, qu'il avait déjà délivré dans le passé, allait aussi le délivrer face à ce géant. Et donc, voyant la détermination de ce jeune David, le roi Saül l'autorise à aller combattre ce géant et lui dit, donc, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Donc, il a foi en la fidélité de Dieu. Il a foi aussi en la toute suffisance de Dieu. Il a foi en la toute suffisance de Dieu. Saül a voulu, à sa manière, apporter sa protection à David, en lui donnant ses vêtements, en lui donnant son armure. Saül a voulu lui dit, voilà, ben, va avec mes vêtements, comme ça tu seras protégé. Donc c'est moi qui vais te protéger. Et donc, il dit, attends, ça c'est embarrassant pour moi. Et donc, David s'est dépouillé de tout cela et il est parti avec les armes qu'il avait l'habitude d'utiliser. Il est parti avec son bâton, avec sa gibecière de berger, il a pris 5 pierres, avec sa fronde. C'était des armes tout simples qu'il avait l'habitude d'utiliser et avec ces armes, Dieu l'avait déjà délivré. Donc, David croyait que pas besoin d'avoir beaucoup d'attirail, pas besoin d'avoir tout ça, Dieu est avec lui et avec le peu qu'il avait, Dieu pouvait le délivrer. Dieu était tout suffisant pour lui. Il n'avait pas besoin de ce que Saül pouvait lui apporter. Et signe supplémentaire de sa foi en Dieu, on voit qu'il croyait que l'Éternel, donc il avait délivré dans le passé, alors qu'il avait donc juste le strict nécessaire, alors il croyait que ce serait tout suffisant. Alors il va affronter son adversaire à partir du verset 41, et on va lire jusqu'à la fin pour terminer cela. Alors verset 41, « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Alors aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le débarrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. On peut s'arrêter là. Donc là, David, il est face à son adversaire. Le texte nous souligne déjà l'attitude méprisante de Goliath à l'encontre de David. Ce grand guerrier, on lui envoie un petit gamin. En plus, il vient juste avec un bâton. C'est pour Goliath, il a une attitude méprisante vis-à-vis de David, mais pour lui, c'est un mépris pour lui qu'on lui envoie un jeune comme ça, quoi. Et donc, Goliath n'est pas content et c'est ce mépris qu'il manifeste là. Mais face à ce mépris, David, lui, manifeste sa confiance en son Dieu. La présence de Dieu est avec lui, il sait que Dieu est avec lui. Goliath, lui, il a remarqué que David avait un bâton. David, lui, il a vu aussi que Goliath avait toutes ses armes, que Goliath avait son épée, qu'il avait sa lance, qu'il avait son javelot. Mais Goliath a oublié une chose, et vous ne savez pas une chose, que David n'avait pas juste un bâton. David avait avec lui l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà, donc c'est là toute la différence. Il lui dit, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Oui, David savait que son Dieu était avec lui, et donc il pouvait y aller. Il sait aussi que la victoire est pour aujourd'hui. Il savait que la chose allait se faire. À plusieurs reprises dans le texte, il est souligné cette pleine confiance en la victoire que Dieu allait lui donner. Il dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » Il dit, « Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux, etc. » Aujourd'hui, C'est là aussi, il savait que Dieu allait lui donner cette victoire-là aujourd'hui. Et l'autre chose que je veux souligner, c'est que peut-être Goliath avançait contre lui avec un pas rassuré, assuré, il va vers lui comme ça, sûr de sa force. Mais David, lui, il n'avance pas en marchant. Il va en courant. Il va en courant combattre son ennemi. Et ça, c'est aussi signe de sa foi et de sa confiance. Alors, j'aimerais juste souligner et quelques applications par rapport à tout ce passage que nous connaissons. Vous savez, comme le peuple d'Israël, nous pouvons être confrontés à des situations difficiles, différentes de celles que nous avions connues dans le passé. Israël avait l'habitude de combattre des ennemis. Donc, c'était pas la première fois qu'ils étaient confrontés à des ennemis. Mais lutter contre un géant d'homme à homme était nouveau. Donc, ils étaient désorientés face à cette nouvelle configuration. Et lorsque les choses, les difficultés arrivent comme cela, il y a ce temps où on est complètement désorienté, on ne sait pas comment agir, on ne pense pas qu'on va pouvoir s'en sortir parce qu'on voit cette situation comme ce géant. Et donc ces situations peuvent nous paraître insurmontables. Et comme pour les Hébreux, nous nous laissons tétaniser par la crainte, l'angoisse, et complètement démoralisés. Nous pensons qu'il n'y a donc rien à faire et que personne ne peut rien faire pour nous. Ne trouvons pas en nos propres forces les capacités nécessaires pour affronter cette adversité. Donc, très souvent, nous sommes là un peu comme ce peuple d'Israël face à cette nouveauté, cette nouvelle-là qu'on vient d'apprendre. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que les luttes que nous avons affrontées dans le passé ou que nous affrontons encore aujourd'hui servent à nous préparer pour affronter celles de demain. Sur quoi ou sur qui nous appuyons-nous pour affronter ces difficultés? Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, sur quoi ou sur qui nous appuyons-nous pour pouvoir les affronter? Est-ce en nos propres forces ou est-ce sur celles que Dieu nous donne? Saül, lui, il avait appris à combattre ses ennemis en s'appuyant sur ses propres forces, sur la capacité de son armée, de sa grande armée, avec ses vaillants soldats. Et là, face à la difficulté, il savait plus quoi faire. Tandis que David, lui, il avait appris à combattre en comptant sur la délivrance qu'allait opérer son Dieu. Et cela, il a appris en luttant, en gardant ses petites brebis, en luttant contre les lions ou les ours. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à nous lever pour aller combattre dans l'armée du roi des rois, malgré notre jeune âge, malgré nos faiblesses humaines, malgré le mépris des autres? Lorsque nous voyons, frères et sœurs, que l'honneur du Dieu vivant est attaqué, lorsque nous voyons que son Église est attaquée, lorsque nous voyons que son Église est persécutée, lorsque nous voyons qu'il y a si peu d'hommes, comme le Seigneur l'a dit, la moisson elle est grande et il y a peu d'ouvriers, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que nous voyons cette difficulté-là? Est-ce que nous disons comme David, oui, je me lèverai, je battrai? Est-ce que nous sommes prêts à le faire comme David l'a fait? Parce que le service aussi dans l'Église peut paraître aussi comme ce géant. Lorsqu'on se sent toujours incapable de faire telle ou telle chose dans l'Église, on se sent toujours, voilà, c'est pas pour moi. mais ce géant-là, ce service qui nous paraît si grand, est-ce que nous pourrions, avec l'aide du Seigneur, je peux y arriver? Avec la force que le Seigneur va me donner, je pourrais faire ce qu'il me montre là pour la gloire de son Saint-Nom, pour son honneur. Voilà donc comment, frères et sœurs, affrontons-nous aujourd'hui la situation difficile que nous connaissons? Est-ce que nous affrontons cette épreuve en reculant, en marchant timidement, ou en, comme David, en courant pour l'affronter? Dans le Nouveau Testament, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême, il fut poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'est pas allé en reculant ni en allant timidement. Il fut poussé par le Saint-Esprit. Lorsque on devait l'arrêter, c'est lui qui est allé au devant face à l'épreuve, face à la souffrance qu'il allait endurer. C'est lui qui donne ce morceau de pain à Judas et lui dit « Vas-y, ce que tu as à faire, fais-le !» C'est lui qui, à Gethsémané, après avoir prié, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Après, il prie trois fois. Et après, il dit à ses disciples, « Allez, levez-vous, allons-y !» Et le Seigneur est allé au-devant de la difficulté, au-devant de l'adversité. Parce qu'il fallait, pour la gloire de Dieu, il fallait, pour sauver tous ceux qui mettraient leur foi en lui, pour avoir cette église, il fallait qu'il passe par là. Et c'est lui qui est allé au-devant, affronter ce géant, affronter la mort, affronter tous ces calomniateurs. Il est allé au-devant. Et donc, dans Pierre, qui parle beaucoup de la souffrance, il nous dit à chaque fois, mais regardez Jésus. Regardez comment lui, il a fait. Il est allé au-devant. Il est allé affronter cette épreuve, pas en allant avec Goliath, il va tout doucement, ou bien avec un pas assuré, et puis il va. Non, mais David, il y va franchement. Donc ne nous laissons pas impressionner par les armes de l'ennemi. Ne nous laissons pas impressionner par la souffrance qui est là et que nous devons affronter. Le Seigneur, il est là avec nous. Et soyons prêts, parce que nous savons que la force, c'est pas nous qui l'avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et même si nous n'avons qu'un bâton, même si nous n'avons que 5 pierres, nous avons surtout avec nous l'Éternel des armées qui combat avec nous et pour nous. Donc, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est comment gérons-nous aussi les victoires que Dieu nous accorde. La victoire, c'est une réponse à la prière, une guérison, une délivrance. Comment gérons-nous cette victoire? David ne recherchait pas la victoire pour la victoire. Il disait, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Donc lui, c'est ce témoignage qu'il veut. Que toute la terre, voilà, c'est écrit dans la parole. Donc toute la terre sait qu'Israël a un Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, est-ce que c'est juste parce que, voilà, on veut être guéri, et puis une fois qu'on est guéri, on est content et c'est terminé? Ou bien est-ce que, finalement, c'est ce qu'on voudrait, c'est que la terre sache que le Dieu de David, c'est mon Dieu, et que c'est lui le Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré de la gueule du lion. C'est lui qui m'a délivré des griffes de l'ours. C'est lui qui m'a délivré de ce géant. Est-ce que c'est pour donner gloire à Dieu? Est-ce que c'est pour justement après venir dans sa maison l'honorer? Comment on peut glorifier Dieu si ce n'est qu'en l'aimant en retour? Si ce n'est qu'en le servant de mieux en mieux? Alors, cette victoire qu'il nous a accordée, cette réponse qu'il a donnée, comment lui témoignons-nous en retour cela? Donc David, lui, ce qui était important pour lui, c'était que Dieu soit glorifié. Et qu'à travers cette épreuve qu'il devait affronter, que Dieu soit glorifié. Il savait qu'il allait avoir la victoire, mais que Dieu soit glorifié. Et donc, cela nous permet aussi de réfléchir à notre manière de prier. Lorsque nous demandons à Dieu de nous donner la force d'affronter telle ou telle difficulté, lorsque nous sommes confrontés à cela, est-ce que dans notre tête, nous pensons que c'est pour la gloire de Dieu, pour que lorsque Dieu va donner la victoire, que ça sera pour que lui soit glorifié? C'est pas juste pour qu'il réponde à un besoin personnel. Dans Exode chapitre 14, je vais lire ce passage pour terminer. C'est le peuple d'Israël qui est confronté face à la mer Rouge, et devant il y avait cette mer Rouge, derrière il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Beaucoup commençaient à s'affoler. Beaucoup voulaient même retourner en Égypte à faire des reproches à Moïse. Et au verset 13, Moïse qui répond au peuple, il dit: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Amen.